Je vous salue tous. Je le sais, c'est un privilège que de vous apporter le conseil de Dieu. C'est une joie aussi. Et je compte ce matin, une fois de plus, une fois encore, sur l'assistance du Saint-Esprit. Car ce qui importe, c'est de dire ce que Dieu veut que nous disions. Alors, notre texte se trouve dans le psaume 107. Psaume 107. Je vous dirai tout à l'heure quel est le fait, quelle est la chose qui m'a amené à méditer sur ce texte. Nous avons des devoirs envers Dieu. Nous avons des devoirs envers Dieu. Et l'un des devoirs du racheté est de le louer. On est bien d'accord ? L'un des devoirs du racheté est de louer Dieu. On lit au verset premier et au verset 2, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Dans ce psaume, nous sommes exhortés à plusieurs reprises, puisqu'au verset 8, au verset 15, au verset 21 et 31, nous lisons qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur de l'homme. Vous le savez, est-il besoin de le rappeler ? Que la répétition d'une même pensée souligne l'importance de cette pensée et la nécessité d'y prêter attention. D'ailleurs, le psalmiste conclut au verset 43 ce psaume par « Que celui qui est sage, prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » L'expression « bonté de l'Éternel » ou « merveille de Dieu » est également traduite dans une autre version par « qu'il loue l'Éternel pour sa fidélité et pour ses actes étonnants, en faveur des hommes. » Et le témoignage de J. là, ce matin, vient un point nommé parce qu'il nous parle de quelque chose de merveilleux, et elle l'a dit, qui est survenu dans sa vie. Qu'il loue l'Éternel pour sa fidélité, pour ses actes étonnants, merveilleux, en faveur des hommes. C'est une richesse que de pouvoir consulter plusieurs versions. J'en citerai une dernière, celle du rabbinat français, la version Zadok Khan, « Qu'il rende grâce à l'Éternel pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes. » Dès les deux premiers versets de ce psaume 107, nous sommes exhortés à célébrer Dieu, célébrer l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours, que les rachetés de l'Éternel le disent ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire. Et moi, je me tairai, me repaissant seulement des belles prières, et il y en a dans cette église, magnifique, des belles louanges, des nombreuses actions de grâce de mes frères et de mes sœurs. Et je resterai bouche fermée. Savez-vous que dans cette attitude, dans cette position de cœur, vous prenez le risque d'attrister le cœur de Dieu? Est-il besoin de rappeler qu'un racheté est une personne qui a été réconciliée avec Dieu sur la base du sacrifice sanglant de Jésus mort sur la croix pour nous, pour tous les hommes? C'est le prix payé par Jésus, sorte de deal passé entre Dieu et son Fils. Il y a une soirée que j'aime dans l'année. C'est celle du Vendredi Saint, où dans ce lieu, qui précède donc le dimanche de Pâques, au travers la lecture de textes sacrés, nous nous remémorons le moment terrible pour Jésus lorsqu'il va vers la croix. La montée silencieuse vers le mont Golgotha, la mise en croix, son agonie, puis l'ultime moment où, rassemblant ses forces, il dit au monde entier, tout est accompli. Concernant le salut de nos âmes, tout est accompli, nous n'avons rien à y ajouter ou à y retrancher. Le prix payé, c'est le prix payé par notre Sauveur pour que nous soyons, vous et moi, nous tous, réconciliés avec Dieu, sauvés pour ce temps et l'éternité. Reconnaissez que cela vaut bien quelque action de grâce. Et je resterai bouche fermée dans l'assemblée des frères, des sœurs. Dieu nous a fait le don de son Fils, il l'a fait à l'humanité entière. Est-il besoin de le rappeler, ce magnifique verset de Jean 3,16, vous le connaissez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Concernant ce salut, nous ne connaissons qu'une partie du salut que Jésus nous a acquis d'une manière parfaite, complète, totale, à la croix. N'est-il pas écrit d'ailleurs que ce salut nous sera révélé pleinement que dans les derniers temps? Je crois, sans vouloir être pessimiste, rabat-joie, que nous sommes entrés dans cette période difficile, que les événements qui se succèdent aujourd'hui en témoignent. Ces événements, d'ailleurs, sont annonciateurs du retour de Jésus. Alléluia. Jésus revient. Il faut le dire, c'est une vérité fondamentale des évangiles. Alors, je ne sais si les effets du salut vous donnent entière satisfaction, mais pour ce qui me concerne, je suis comblé. Vous m'entendez? Je suis comblé, pas vous? Je suis comblé. N'est-il pas merveilleux d'être assuré d'être sauvé? Oui ou non? Oui. Que nous sommes, que je suis gardé de jour comme de nuit par un Dieu qui ne dort ni ne sommeille, nous est-il dit? Ce qui génère en nous, en moi, ce sentiment de pleine sécurité. Je n'ai pas souvenance, depuis que j'appartiens au Seigneur Jésus, m'être endormi un soir avec de la crainte, de la peur. Non. Je m'endors chaque soir tranquillement, paisiblement. Et je me tairai. Non. Conseillé, un autre aspect, conseillé par son esprit, savoir ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire, d'entreprendre ou de ne pas entreprendre, quelles que soient les circonstances rencontrées, je dis oui, je ne me tairai pas. C'est merveilleux d'être accompagné par l'Esprit de Dieu. Personne ne dit amen. Mais c'est merveilleux, c'est une chose magnifique que d'être accompagné de son esprit. Avoir accès à sa parole. Je crois qu'il en a été question dans la bouche de Francine tout à l'heure. Avoir accès à sa parole d'une manière libre. Mais pas seulement la lire. Parce que moi, je l'ai lu pendant toute ma jeunesse, partiellement, mais... J'ai lu les évangiles, j'ai lu l'Ancien Testament. Je ne comprenais rien. Mais pouvoir avoir accès à sa parole, la comprendre, puis l'assimiler comme on assimile un aliment de qualité, avec pour effet d'être fortifié, ben je dis amen. Je dis oui, Seigneur, tu es digne de recevoir ma louange. Ce qui vient d'être énuméré, il y aurait bien d'autres choses à énumérer, est le fruit, la conséquence de la confiance que nous portons au Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas mettre en oubli les guérisons obtenues, les délivrances accordées, les interventions miraculeuses pour nous arracher au danger. Et par deux fois dernièrement, sur la route, Agnès et moi, nous avons été gardés, mais de manière vraiment étonnante. Nous ne devrions plus être là. C'en était fini. Dieu est bon. Dieu est bon et il faut le louer pour sa bonté, sa bienveillance. Je resterai bouche fermée, pas moi, frères et sœurs. Pas moi. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, sa fidélité, pour ses merveilles en faveur des âmes ou pour ses actes étonnants. Chapeautant le tout, il y a la promesse de passer l'éternité dans le ciel où Christ est remonté pour nous y préparer une place. Il est absent momentanément de notre terre, mais il revient pour enlever l'Église. L'Église de Dieu, et la mettre en sécurité chacun de ses membres dans le ciel de son Père. Ce n'est pas une belle perspective ? Moi, j'ai envie de dire amen. C'est une belle perspective. Ça vaut de nos cœurs qu'on exprime sa reconnaissance. Et il vient nous chercher pourquoi ? Pour nous arracher aux vilainies de ce monde, pour mettre fin aux péchés qui souillent le cœur, les maux de toutes sortes qui nous font souffrir. Alors il y a cette répétitive exhortation à louer Dieu. On voit ici que Dieu a secouru son peuple dans cette situation où il y a plusieurs aspects, c'est ce que nous allons voir ensemble. Il y a l'errance, premièrement, il y a la révolte, il y a la folie et il y a le désespoir. Il peut arriver par un concours de circonstances dans un moment de faiblesse, de découragement. Vous savez que le monde nous emmène parfois à déprimer si nous n'y prenons pas garde, par un manque de vision, par négligence de lire, de pratiquer sa parole, que le racheté connaisse l'une de ces situations, je dis, Dieu veut l'en sortir, comme il a su délivrer le peuple d'Israël lorsqu'il errait, lorsqu'il se révoltait, lorsqu'il devenait fou, insensé, lorsque le désespoir gagnait les cœurs. La première situation, l'errance. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Avant de connaître le Seigneur et que toute chose devienne nouvelle, nous étions dans l'errance la plus totale. On est bien d'accord. Dans le questionnement, dans la recherche d'absolu, dans la quête de vérité. Mais nous n'avions aucune assurance. Et parfois même la désillusion, malgré les réponses apportées par des hommes d'Église, était là. Et nous étions dans le flou le plus complet. Nous étions des brebis sans berger. Des brebis sans bergerie pour se reposer et se sentir en sécurité. Il suffit de relire chapitre 10 de Jean. Ce qui caractérise une brebis, c'est de ne pas savoir s'orienter. Une brebis seule s'expose à tous les dangers, elle est vulnérable. La notion de troupeau rassemblé par le berger dans la bergerie met en évidence qu'il est difficile de vivre sa foi en s'isolant et qu'il est bon de fréquenter l'assemblée locale, de rencontrer les frères et sœurs, de se nourrir de cette bonne communion fraternelle. Dans sa sagesse, Dieu a donné à l'Église des bergers. Des pasteurs qui ont la charge de paître les brebis. Les Écritures parlent de ministères confiés par Dieu à des hommes fidèles. Et à l'Église de Kévin, nous avons des hommes fidèles. Nous sommes bien pourvus en bergers. C'est encore un sujet de louange. Je loue Dieu pour les ministères qu'il a suscités au milieu de nous. L'errance ne doit plus être notre partage, et si cela advenait, cherchons à entendre la voix du berger qui doit nous être familière. Évangile de Jean, toujours chapitre 10. C'est vite fédéré quand l'on voit tout ce qu'Internet nous propose en contenu spirituel, attractif, moderne, au goût du jour, nouveau. Méfions-nous de ce qu'un peu de levain peut faire lever toute la pâte. 1% de mensonge subtilement glissé dans un propos peut gâter tout le tout. Alors il marchait, ces braves, sans trouver une ville où il puisse habiter. L'Église est temporairement un lieu de repos et par expérience, il fait bon y séjourner. Oui, non ? Vous aimez être dans l'Église ? Vous aimez être dans l'Église ? Et je me tairai. Seigneur, je n'ai pas à te remercier, je n'ai rien à te dire, mon cœur est sec. Non. Mais encore, le chemin étroit, resserré, dans lequel Jésus nous invite à marcher, ne nous conduit-il pas vers le ciel ? Où tout est paix, repos, sécurité, où larmes et pleurs auront disparu, où la souffrance n'aura plus d'existence et où le péché ne peut entrer. C'est une belle perspective. Deuxième situation, la révolte. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ne pas négliger de nourrir nos âmes et pas n'importe comment, mais avec l'aliment qui est sûr, il est là. La parole de Dieu, nous l'avons entre les mains. Sa parole, c'est notre manne. Elle peut nous nourrir tous les jours que Dieu fait. Alors, la conséquence d'avoir négligé les paroles de Dieu, de s'être révolté contre ces paroles, la conséquence, c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup d'humiliation. Lorsqu'on se révolte contre Dieu, et ça peut arriver, on dit « Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi et je regrette, mais ce que tu fais là ne me va pas », et puis on conteste. Faisons attention. Il est vite fait alors de dévisser, de chuter, de se blesser et d'être affaibli. N'y a-t-il pas la pensée de ténèbres et de mort ? Vous rétorquerez que le fait de croire au Seigneur Jésus m'a affranchi des liens du péché et de la mort. Oui, enfin nous sommes quand même invités dans toute l'Écriture à veiller et à prier. Veillez et priez, nous a dit Jésus. Le diable sait, lorsque l'on est faible, lorsqu'on est affaibli, découragé. C'est là qu'il intervient, évidemment. Le seul moyen de lui résister est de lui opposer notre foi et de s'appuyer sur le « Il est écrit ». Nous avons alors la promesse qu'il fuira loin de nous. Si je me mets à discuter, plus encore à contester la parole de Dieu, ou tout simplement à la mépriser, à ne pas en tenir compte, je deviens en quelque sorte un révolté. Je me révolte. Puisse Dieu nous délivrer de cela, si cela advenait. Ici, nous voyons que la délivrance, une fois de plus, est encore là. Dieu usant encore de bonté avec son peuple. Troisième situation, la folie. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, d'où l'importance de bien se nourrir. Vous savez que nous sommes responsables de nos actes. Je parle à des gens responsables ici, bien évidemment. Et que que péché n'est pas anodin ni sans conséquence. Cela peut nous amener à déprimer et à négliger toute nourriture. L'on s'affaiblit au point de toucher aux portes de la mort. Le psalmiste y fait allusion. Le résultat, c'est beaucoup de souffrance et d'angoisse. Pécher volontairement, je dis bien volontairement, est une source de difficulté. C'est une conduite insensée. Je deviens coupable si je persiste dans cette attitude, si je m'y complais et si je ne fais rien pour y remédier. Et péché par accident, c'est notre lot, hein, faut pas se voiler la face. On n'est pas tous parfaits, aucun d'entre nous n'est parfait. Mais Dieu est prêt à faire grâce. Alors mon propos n'est pas de vous accabler, de vous culpabiliser. Mais ce matin, j'ai plaisir à vous dire. L'Éternel Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il nous conserve son amour jusqu'à la millième génération et il pardonne l'iniquité. C'est pas beau, hein, tel verset ? Ayons le présent à l'esprit. Il est toujours possible de revenir à Dieu à la condition de reconnaître que l'on a failli, que l'on s'est trompé, que l'on a fait un mauvais choix, pris une mauvaise direction. Je crois que revenir à la croix, regarder à soi-même, comme cela a été plus ou moins dit dans un don spirituel, je crois que c'est vraiment la démarche à ne jamais négliger. Si dans ces diverses situations qu'a connues le peuple et a péché gravement, Dieu a usé de bonté et il les a délivrés. Le mot « bonté » est là en permanence dans notre texte de référence. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, « Oh, que ta fidélité est grande » est-il écrit dans un autre passage. Ce qui veut dire qu'il est hors de question pour Dieu que ses bontés, à un moment ou à un autre, nous fassent défaut. Les bontés de l'Éternel nous sont renouvelées chaque matin. Amen. Non, mais vous réalisez la chose ? Dieu n'a pas dit ce matin, tiens, Jean-Louis, ça suffit comme cela, mes bontés de côté, qui se débrouille, je ne vais pas l'assister, mon Saint-Esprit va se mettre en veilleuse. Non, Dieu a dit, mes bontés sont pour lui comme pour vous. Alléluia. Et vous n'avez pas sujet de louer le Seigneur ? Vous resterez bouche fermée, mes amis ? Alléluia. Alors, es-tu addict de quelque chose qui t'empoisonne la vie, l'existence, dont tu ne peux te défaire ? Viens à Jésus. Il a été question que Dieu avait capacité à délivrer ce matin quelqu'un qui est dans des fers. Jésus est venu pour briser les fers, pour défaire les liens, qu'ils soient des liens du passé ou présent. Jésus vient. Rien ne résiste à Jésus. Imprimez cela dans votre esprit, dans votre cœur. Rien ne résiste à Jésus. Toutes délivrances sont possibles en sa personne, en son œuvre. Il suffit de croire. Jésus ayant capacité à remettre tout à neuf dans le cœur de l'homme et de la femme qui se repent. Quatrième situation, c'est le désespoir, mais je crois que je vais comprimer parce que le temps tourne. Il est dit que la tempête est là, que leur âme était perdue face au danger, qu'ils étaient saisis de vertige, qu'ils chancelaient comme un homme ivre. Dieu a la maîtrise de toutes choses. Et parfois, il peut permettre que notre foi soit éprouvée, mais il a la maîtrise de toutes choses. C'est pour apprendre de lui quelque chose très souvent, quand l'épreuve est là. Et à savoir dépendre de lui. N'oublions pas qu'il peut, je l'ai affirmé il y a un instant, nous délivrer magnifiquement, nous restaurer, nous guérir, faire toute chose, que toute chose devienne nouvelle. Voyez-vous, je vous apporte le conseil de Dieu ce matin. Avant l'épreuve de la maladie que j'ai connue à l'âge de 40 ans, terrible, je ne vais pas m'étendre, j'étais incapable de le faire. Mais pendant ces temps difficiles que j'ai connus, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris à mieux dépendre de Dieu, à lui faire confiance. C'est souvent dans des moments d'extrême difficulté qu'il parle à nos cœurs, nous révèle sa pensée profonde et nous fait savoir ce qu'il attend de nous. Si je prêche ce matin, ce n'est pas que j'ai envie de prêcher forcément, ce n'est pas que j'ai un ministère, non, non, ou que je m'en réclame, non du tout, mais c'est parce que je sais que c'est ce que Dieu veut en ce qui me concerne. Alors je dis oui Seigneur. Voilà, savoir louer Dieu en toute chose, le bénir, le louer. Et si nous sommes désespérés à un moment, il saura nous délivrer de nos peurs et de nos angoisses. C'est mon exhortation ce matin. L'invitation à le célébrer, à le louer pour sa bienveillance, pour ses merveilles en faveur des humains, que nous sachions l'exalter dans l'assemblée du peuple et le célébrer dans la réunion des anciens. Et vous savez, je l'ai souligné tout à l'heure, mais je le souligne tout à nouveau, ce sera ma conclusion, au verset 43. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel et qu'il en découle, qu'il y ait dans sa bouche une louange permanente, et notamment lorsqu'il est en réunion d'église. Lui apporter le culte, c'est lui dire « Seigneur, je t'aime, je t'appartiens, je suis heureux de t'appartenir ». C'est lui dire « Tu m'as sauvé, c'est parfait, je n'ai rien à y ajouter, merci encore ». C'est tout simplement ça, louer le Seigneur, et vous verrez, vous vous emporterez bien. Amen.